Alors aujourd'hui, nous attaquons le deuxième livre de Samuel. C'est ça, hein, il me semblait bien. La semaine passée, on a commencé en fait le livre de Samuel. On a expliqué que dans vos Bibles françaises, vous avez quatre livres. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. En réalité, ces quatre livres n'en forment qu'un seul. Ils ont été découpés probablement pour des raisons matérielles. À un moment donné, il faut faire des rouleaux à part entière. Le découpage est à peu près le même. Le nom des livres est différent. Dans la tradition grecque ancienne, on les appelle le livre des règnes. Donc, ils sont numérotés 1 à 4. 1 règne, 2 règnes, 3 règnes, 4 règnes. Dans la tradition hébraïque, il y a le livre de Samuel d'un côté, le livre des rois de l'autre. Et donc, le livre de Samuel lui-même est découpé en deux, 1 et 2 Samuel, le livre des rois est découpé en deux, 1 et 2 rois. En réalité, ces quatre livres, il faut donc les prendre ensemble. On a discuté la semaine dernière en disant que ce brave Samuel n'était certainement pas le personnage central du livre de Samuel, 1 et 2 Samuel, précisément parce qu'il meurt avant même la fin du premier livre de Samuel et qu'il est donc totalement absent du deuxième livre de Samuel. En fait, on l'a associé au personnage de Samuel parce que c'est lui le personnage central des premiers chapitres. C'est lui qui va faire la transition entre la période des juges et la période de la royauté. C'est lui qui va oindre Saül, et puis plus tard, c'est lui qui va oindre David. Et puis ensuite, il tirera sa révérence, il prendra sa retraite. Bon, vous vous souvenez, la dernière fois, il ressuscite quand même à un moment donné, quand même, puisque Saül, inquiet, cherche à avoir une direction divine, et comme il ne l'a pas, il va avoir une sorcière qui ramène Samuel d'entre les morts. Mais donc voilà, donc même mort, Samuel réapparaît, mais vraiment ponctuellement au cours de cet épisode-là, c'est au chapitre 24, Samuel 24. Moi, je pense que si on avait dû mettre un nom, associer un personnage aux deux livres de Samuel, ce ne serait pas Samuel, ce serait David. Donc au lieu d'appeler ça 1 et 2 Samuel, moi j'aurais appelé ça 1 et 2 David. Parce que clairement, c'est le personnage de David qui est central. La royauté de Saül est brève et elle n'est là que pour servir d'opposé, d'antithèse au personnage de David. Saül, il est grand, il est fort, il est beau, etc. David, il est petit, il est jeune. Bon, voilà. Saül s'illustre par des exploits guerriers et puis David, lui, il est musicien. Alors quand même, on va quand même faire de David à un moment donné un guerrier parce que c'est pas tout. Mais donc on va le mettre en scène en train de tuer Goliath. Mais comme on va le voir dans quelques minutes, dans le récit primitif, c'est pas David qui tue Goliath, c'est quelqu'un d'autre, c'est un de ses guerriers. On va le voir à la fin du livre de Samuel, vous allez le voir. Et donc, concrètement, ce personnage de David occupe ensuite toute la place. Dans la deuxième moitié du livre de Samuel, il n'est pas encore... Il est loin. On sait que c'est lui qui va être le roi et qu'il va être le bon roi par opposition au mauvais roi qui est Saül. C'est pas que Saül est totalement mauvais, mais c'est juste que Saül, il est borné, il comprend pas ce qu'on lui dit. Et puis, de façon répétée, il s'obstine à désobéir, à ne pas respecter scrupuleusement les instructions qui lui sont données par Dieu, disons, par l'intermédiaire du prophète Samuel. Alors que David, lui, au contraire, est ultra scrupuleux, puisque même une fois que David a été oint par Samuel et qu'il sait que c'est donc lui qui doit être le nouveau roi, eh bien pourtant, il se refuse à mettre à mort Saül, alors qu'il en a l'occasion à plusieurs reprises. On l'a vu plusieurs fois, y compris des situations un peu cocasses, où Saül rentre dans une grotte, il baisse, baisse son pantalon, bon, il n'avait pas de pantalon à l'époque, mais disons, il est là, occupé à faire ses besoins, et David est caché derrière lui, au fond de la grotte. C'est l'occasion rêvée d'arriver par derrière, de le poignarder, on n'en parle plus, l'affaire est finie. Eh bien non, David refuse en disant, il a été oint par Dieu, et donc je ne peux pas y toucher, il a été oint par Dieu, donc c'est pas moi, parce que voilà. Donc David est ultra, ultra scrupuleux, c'est tout l'opposé de Saül. Bref, à la fin du premier livre de Samuel, donc, Saül meurt. Il finit par mourir, et donc ça y est, on se dit, voilà, toutes ces années d'attente où il jouait à cache-cache, David était obligé de s'enfuir dans le désert, d'aller chez les ennemis, de faire croire qu'il se ralliait à la cause ennemie pour, en attendant de pouvoir retourner en Israël. Ça y est, on va pouvoir. Et donc le découpage entre 1 Samuel et 2 Samuel s'est fait à ce point-là, à ce point de rupture. La fin du premier 2 Samuel, c'est la mort de Saül. Et donc, au chapitre 1er du second livre de Samuel, ça commence, les premiers mots, c'est « après la mort de Saül ». Voyez, donc, clairement, le second livre de Samuel, c'est « après la mort de Saül ». Et donc, on se dit, David va enfin pouvoir accéder à la royauté. Donc là, les premiers chapitres de 2 Samuel vont montrer l'ascension de David au pouvoir, jusqu'à, on dirait, l'apogée. Et puis ensuite, les choses vont commencer à se passer un peu moins bien. Et puis la fin du deuxième livre de Samuel, comme la plupart de tous les livres, je vous ai expliqué, il n'en finit pas de mourir. Hein. Il se passe des choses, et puis on pense que c'est la fin du livre, mais en fait, finalement, on rajoute quand même un chapitre, et puis on en rajoute encore un, et puis on rajoute encore des choses. Donc à la fin, on pourrait presque dire que c'est une sorte d'annexe. Je sais pas, vous savez, des fois, quand on fait des publications scientifiques, on met des annexes. Bon, voilà. Et là, on a l'impression, des fois, on dit, tiens, allez hop, je te colle ça comme annexe. Bon. Alors, regardons rapidement la structure du second livre de Samuel. Donc, le personnage central, c'est David, on l'a vu, et ça reste lui. Hein. Il est censé mourir à la fin du second livre de Samuel. En fait, pas tout à fait. Au début du premier livre des rois, David sera encore pas tout à fait mort. Il sera mourant, mais bon, voilà, on a encore 2-3 épisodes. Donc, il sera encore là au premier chapitre. Mais enfin, globalement, on peut dire que le deuxième livre de Samuel, c'est le règne de David. Le premier livre de Samuel, c'est la transition entre la période des juges et la royauté, avec un premier coup... un coup dans l'eau, un coup raté avec Saül, et puis on attend la mort de Saül. Le deuxième livre de Samuel, là, vraiment, on peut se focaliser sur la royauté de David. Les premiers chapitres, jusqu'au chapitre 7, grosso modo, on va vous raconter comment David, peu à peu, va effectivement devenir roi. Il est déjà oint, on sait que c'est lui qui va être le roi, mais maintenant, il est temps que ça se concrétise. Donc, ça va se concrétiser. Alors, tout d'abord... ça va se faire en 2 étapes. D'abord, à Hébron, sur la tribu de Juda. David lui-même est issu de la tribu de Juda, donc c'est la première tribu forcément qu'il reconnaît comme roi. Et donc, ce n'est pas tout de suite lui qui va prendre la tête sur l'ensemble des 12 tribus, mais ensuite, il va finir par être reconnu par les autres tribus, et il va finir donc par être roi de l'ensemble des tribus d'Israël. Et puis, il va établir sa capitale à Jérusalem. Donc ça, vous voyez, ça c'est les étapes de l'ascension de David au pouvoir. Et puis ensuite, il y aura donc le chapitre 7, c'est un chapitre fondamental, où il aura cette promesse d'une dynastie éternelle. On lui dit, ben voilà, ça y est, contrairement à Saül, toi t'as été un bon roi, donc te voilà récompensé, ta dynastie sera éternelle. Et puis ensuite, les choses vont commencer à moins bien se passer. On va avoir l'épisode notamment de Bethsabée. Il va convoiter la femme d'un de ses soldats, etc., etc. Donc, bon, adultère, etc. Bon. Et puis ensuite, même son pouvoir politique va s'effriter, puisqu'il va y avoir des coups d'État, alors surtout par son propre fils, Absalom. Bon, ça va occuper une bonne partie. Vous voyez, les chapitres 13 à 19, ça va être, on va s'intéresser au coup d'État d'Absalom. David va repartir en fuite, et puis finalement, il va revenir. Il y aura un autre coup d'État rapide. Et puis, à la fin, les derniers chapitres, c'est des chapitres divers, avec des petits épisodes isolés, ou les dernières paroles de David, et puis un dernier cantique de David, et puis encore des derniers exploits. Et puis, comme je vous dis, à chaque fois, c'est toujours pareil. À la fin, ça n'en finit pas de finir. Donc voilà, grosso modo, pour la structure du second livre de Samuel. J'allais dire le second livre de David, vous voyez comme quoi... Donc, premier chapitre, David apprend la mort de Saül. Et on pourrait imaginer que David soit content. Ça y est, enfin, moi qui attendais la mort de Saül, j'ai enfin pouvoir être roi. Pas du tout. Verset 11, David saisit ses vêtements, il les déchira. Tous ceux qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple du Seigneur et de la maison d'Israël qui étaient tombés par l'épée. David ne se réjouit pas. Il dit finalement, toute cette affaire-là, c'est quand même bien sordide, tout ce qui s'est passé. D'accord, Saül était un mauvais roi. D'accord, finalement, Dieu m'a choisi, mais quand même, tout ça, c'est triste. Alors, David est vraiment exemplaire de ce point de vue-là. Vous verrez, il va s'illustrer à de multiples reprises par ce côté de... Même les gens le trahissent. Absalom, c'est pareil, va le trahir. À la mort d'Absalom, David va pleurer en disant « Ah, j'aurais aimé mourir à la place de mon fils », alors que son fils vient à essayer de faire un coup d'État et de se débarrasser de lui, quoi. Donc, c'est vraiment de l'amour inconditionnel, comme on dit. Donc, il y a, voilà, bref. Alors, du coup, il y a ce chant dans la deuxième partie du chapitre premier. C'est un chant de lamentation, hein, de deuil. Donc, il parle de tristesse, etc., etc. Bon, alors, il est triste pour Saül, il est triste pour Jonathan également. Je ne me suis pas attardé là-dessus la semaine passée, mais quand vous lisez le premier livre de Samuel, donc David et Jonathan deviennent amis. Et amis, mais toute la question qui a été débattue par les exégètes, c'est de dire, mais de quel type d'amour s'agit-il? Si vous regardez bien, ils sont très proches l'un de l'autre, ce sont des confidents, ils se retrouvent, c'est un amour, ils ont un amour l'un pour l'autre qui dépasse largement le cas de l'amitié habituelle entre deux soldats ou des gens comme ça. Il y a vraiment un côté d'amour passionnel presque. À un moment donné, dans un des passages, il faudrait que je vous retrouve le passage, mais Saül, à un moment donné, dit à Jonathan, mais écoute, tu nous fais honte, quoi. Et c'est un passage un petit peu ambigu en disant, ah bon, mais il fait honte, mais qu'est-ce qui fait honte bref, alors bon, je vais pas perdre du temps à rechercher le passage comme ça, mais bref, il y a, on peut avoir l'impression, en creux, qu'en réalité, l'amour, regardez, par exemple, 1 Samuel 19. Je fais un petit retour en arrière. Hein. David plaisait beaucoup à Jonathan. Enfin bref, il y a tout un tas de versets comme ça où on voit que, manifestement, il y a des sentiments qui sont au-delà de la simple amitié. Et d'ailleurs, ici, on le dit plus que clairement, à la fin de ce fameux chant, ce fameux chant de lamentation, au verset 26, donc 2 Samuel 1, 26, « À cause de toi, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse, tu m'étais si cher. Ton amour était plus merveilleux pour moi que l'amour des femmes. » Là, c'est un verset très clair. Il dit, voilà, finalement, l'amour de Jonathan pour moi est plus grand, plus important, plus grand que l'amour des femmes. Donc, il l'aimait plus qu'on aime les femmes. Alors, du coup, ça, c'est des versets qui sont utilisés pour discuter sur toutes les questions d'homosexualité. Alors, c'est d'actualité, puisque en ce moment, en France, on débat du mariage homosexuel, etc. etc. Donc, ça fait partie du débat de dire, finalement, de quel type d'amour s'agit-il ici. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Il y a un article dans un volume que j'ai édité, qui s'appelle « Le jeune héros ». C'est la série « Orbis Biblicus et Orientalis ». Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière à propos d'un autre article dans le même livre qui était consacré à un verset sur David, un article de Steve McKenzie, alors qui est en anglais, mais bon, vous savez lire l'anglais quand même. Et là, l'autre article auquel je fais référence, qui est dans le même bouquin, qui est un article de Christophe Nihan, qui est prof à Lausanne, prof à la fac de théologie de l'Université de Lausanne, en Suisse. Donc il écrit en français, c'est du français suisse, mais... Comme c'est moi qui ai édité le volume, Non, je rigole. Il écrit très bien, Christophe. Bref. Donc, lisez ce chapitre sur David et Jonathan. Pour résumer, hein, Christophe Nihan. N-I-H-A-N. Nihan. Christophe Nihan. Et donc voilà, j'ai le bouquin à côté. Le bouquin est certainement à la bibliothèque. Et en plus, on peut vous passer le PDF. Si vous voulez le PDF du chapitre, tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Le jeune héros. Le livre s'appelle Le jeune héros, et donc édité, on a fait un colloque à Paris, en fait, au Collège de France, organisé par Jean-Marie Durand et Thomas Römer, qui étaient tous les deux titulaires de deux chaires, Assyriologie, Milieu biblique. Et donc on a fait ce colloque, et donc on m'a demandé d'éditer le volume, en fait. Donc j'ai tout rassemblé, tout relu, tout corrigé, tout mis en forme, et on a fait un joli bouquin avec des tas de contributions intéressantes, y compris un chapitre de Votre humble serviteur, mais qui ne nous intéresse pas aujourd'hui puisqu'il parle de Daniel. Donc quand on parlera du livre de Daniel, je vous rappellerai mon chapitre. Je ne peux pas te dire par cœur le titre du chapitre de Christophe Nihan, malheureusement. Le titre du bouquin, je l'ai. Je sais que c'est le chapitre de Christophe Nihan. Enfin, j'ai le bouquin dans mon bureau à côté. Il suffit d'y aller tout à l'heure, si tu veux. Donc, voilà. Alors, pour résumer, si vous voulez, l'argument. Hein, et dans le même bouquin, il y a un chapitre qui traite également de l'amitié héroïque entre Gilgamesh et Enkidu. Alors, Gilgamesh, là, c'est dans la littérature mésopotamienne. Mais c'était tout le but du colloque. Hein, quand on parle du jeune héros, c'est pas uniquement dans la Bible. C'est plus généralement dans le cadre de la littérature du Proche-Orient ancien. Et en fait, on observe le même phénomène. C'est-à-dire que manifestement, ce à quoi on a affaire, c'est pas juste une amitié virile, on se donne une bonne tape dans le dos, on se fait un bras de fer, on va boire une bière. Il s'agit d'un amour fort, d'un amour certainement sentimental, de sentiments, alors qu'on peut les qualifier de sentiments amoureux, moi j'en sais rien. À vrai dire, je sais même pas vous dire ça veut dire quoi être amoureux, même avec une femme. Donc je vais pas débattre. Enfin, voilà. Donc c'est très difficile je vais pas rentrer dans les choses. Après ça, c'est votre vie privée, mais. Mais où est-ce que vous mettez la limite entre eux, on s'aime beaucoup, très fort, vous savez, la petite fleur, je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, enfin voilà. Où est-ce que vous mettez le curseur, où est-ce que vous mettez la limite? Bon, c'est difficile. Il y a des sentiments qui sont là, qui sont très forts, on aime être ensemble, on partage. La question qui se pose, évidemment, c'est est-ce qu'ils partagent un amour physique? C'est la première question. Évidemment, c'est difficile. Dans la Bible, on ne vous donne pas les détails. On sait qu'à un moment donné, David et Jonathan se retrouvent tous les deux dans les champs. Bon, On ne sait pas ce qu'ils font en même temps. Donc, tout ça, ça peut être que des spéculations. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez un verset comme ça, on voit bien que l'amour entre eux peut vraiment être qualifié d'amour, donc plus grand que celui qu'on a pour une femme. Donc, si on peut être amoureux d'une femme, là, c'est encore plus grand que ça, quoi. Donc là, il y a vraiment l'amour très, très fort. Maintenant, ce n'est pas non plus de l'homosexualité au sens traditionnel du terme. Tout d'abord, parce que chacun, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et si vous regardez du côté de Gilgamesh, c'est pareil. Donc, dans l'Antiquité, il n'y a pas l'idée pour un roi de dire, écoutez, non, moi, désolé, j'ai une orientation. Aujourd'hui, on dit, voilà, il y a des gens qui sont hétérosexuels, d'autres qui sont homosexuels. Non, dans l'Antiquité, même si on a, et c'était pareil chez les Grecs, en fait, hein, où là, pour le coup, on a des mentions plus qu'explicites d'actes sexuels, d'actes homosexuels, hein, vraiment, il y a même des représentations sur des bas-reliefs, ou notamment en iconographie sur des vases grecs, etc., etc. Et allez dans un musée, allez, je sais pas, au musée du Louvre, ou bref, vous verrez très bien. Donc même dans la civilisation hellénistique, où là, c'est vraiment explicite, il n'empêche que les hommes ont quand même des femmes à côté, ne serait-ce que pour avoir des enfants. Voilà. Aujourd'hui, c'est différent, parce qu'effectivement, on a d'autres moyens d'avoir des enfants que... Bon. Mais à l'époque, donc un roi, il doit avoir une postérité, puisqu'il doit avoir un héritier, donc il a des femmes. Donc ça pose aucun problème. Évidemment, David a des femmes, Jonathan a des femmes, ou au moins une femme. Ça ne les empêche pas d'entretenir une relation qui peut être qualifiée d'amoureuse ou de... Alors, les spécialistes disent que c'est peut-être pas homosexuel, c'est peut-être homo-érotique. Bon, enfin, j'en sais rien. Bref. Donc, moi, c'est pas ma spécialité de toute façon. Mais, enfin, voilà. Donc, j'attire votre attention sur le fait que ça fait partie, donc, des questions qui sont abondamment débattues, notamment sur ce verset du chapitre 1er, verset 26. Alors, après le deuil, c'est pas tout, mais maintenant, il faut se remettre au travail. Donc, au chapitre 2, David va être reconnu roi à Juda. Verset 4, vous voyez, les hommes de Juda vinrent. Là, ils conférèrent l'onction à David pour qu'il soit roi sur la maison de Juda. Donc ça y est, c'est fait. David établit sa royauté sur le royaume sur la tribu de Juda, avec pour capitale Hébron. Et Hébron, c'est au sud de Jérusalem, je ne sais pas combien c'est, peut-être une vingtaine ou une trentaine de kilomètres au sud de Jérusalem, hein, c'est pas très loin. Dans la montagne, pareil, à peu près à la même altitude. Et pendant ce temps-là, le fils de Saül, Ish-Bosheth, reçoit l'onction pour être reconnu roi. Disons, il succède à son père Saül. Il a investi de la royauté sur le royaume du Nord, sur les tribus du Nord. Et ça dure comme ça pendant plusieurs années. Alors Ish-Bosheth, c'est certainement pas son vrai nom, parce que Ish-Bosheth, ça veut dire l'homme de la honte. Bosheth, c'est la honte en hébreu. Donc Ish-Bosheth, c'est l'homme de la honte. C'est pas le nom qu'on donne à son fils. Enfin, je sais pas si vous avez un enfant. Bon, enfin voilà, évitez de l'appeler comme ça, quoi. C'est un conseil que je vous donne. Donc c'est pas le nom qu'on donne à quelqu'un. Donc ça, c'est probablement un sobriquet qu'on lui a donné pour salir son nom, en fait. Hein. C'est quand quelqu'un... Donc ça c'est fréquent. Hein. Vous voyez, dans l'Antiquité, on fait ça. Parfois, on change le nom. Parfois, on efface le nom. Hein. Vous allez aller en Égypte, vous allez tous les temples, aller du côté de Luxor, Karnak, etc. Vous verrez, on vous raconte des histoires. Hein. Donc les murs, vous avez tous les hiéroglyphes. Et là, vous avez des cartouches qui sont effacées parce qu'en fait, c'est le nom d'un roi d'avant et on veut rayer à tout jamais la mémoire de ce roi. Donc on efface son nom. C'est comme si on mettait bip, comme vous savez, quand les documents sont censurés là, avec le gros stylo noir là, dans les films américains, ou quand les documents top secret ils sont tout couverts de noir, ben là c'est pareil, hop, on censure le nom. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On change le nom. Alors peut-être pas tout le nom, peut-être qu'il s'appelait Ish quelque chose, et que le deuxième élément, parce qu'Ish ça veut dire homme de quelque chose, et puis peut-être on a remplacé la deuxième partie par Bosheth. Et c'est pas le seul cas, puisqu'un peu plus loin il y aura un Mephibosheth. Donc vous verrez, c'est pas un cas unique. Bref, toujours est-il que les chapitres qui suivent, il y a un petit peu c'est des intrigues, hein, si vous voulez, c'est des conflits, comment ça se passe, on se tape dessus, il y a la guerre, vous voyez, chapitre 3, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David, etc., etc. Bref, je passe les détails. Chapitre 5, David est reconnu roi, pas simplement de Juda, mais de l'ensemble du peuple d'Israël. Chapitre 5, verset 1er, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Nous sommes tes os et ta chair ». Autrement dit, nous sommes de ta parenté, de la même famille, etc. Donc, verset 3b, le roi David conclut une alliance pour eux à Hébron devant Yahvé. Ils conférèrent l'onction à David pour qu'il soit roi sur Israël. David avait 30 ans lorsqu'il devint roi, il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Vous voyez le règne de David, d'abord à Hébron sur Juda, et puis ensuite sur tout Israël. Alors, il prend la capitale, verset 6, le roi marcha avec ses hommes contre Jérusalem, contre les Jébusites qui habitaient le pays, etc. Et donc, finalement, il prend Jérusalem, verset 7, David prit la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. Donc la ville existait déjà, elle était fortifiée. D'ailleurs, on a découvert des fortifications énormes il y a quelques années. Un archéologue qui fouille donc la vieille ville de Jérusalem a découvert des blocs de pierre énormes qui sont donc d'époque de l'âge du bronze. Donc l'âge du bronze, c'est jusqu'en 1200 avant notre ère. Hein. Donc, c'est entre 1600 et 1200, quelques siècles avant David. Hein. David, c'est le 11e siècle, si vous voulez. Donc il y avait une ville énorme, enfin énorme, la ville elle-même était petite, mais des fortifications énormes à Jérusalem avant l'arrivée de David. Et on les a découvertes donc il y a pas très longtemps, hein, il y a quelques années seulement. Donc c'est pas encore tout à fait public. On peut pas tout à fait les visiter, mais quand même, si vous descendez pour rentrer dans le tunnel de Siloam, avant d'entrer dans le tunnel, vous pouvez regarder à gauche, et là ils ont fait en sorte que les visiteurs puissent voir quelques-uns de ces blocs de pierre énormes, qui font plusieurs tonnes. Donc si on fait un voyage en Israël, si vous voulez, je vous montrerai ça. Donc il y a vraiment une forteresse. Quand le verset vous dit qu'il y avait une forteresse, oui, il y a vraiment une forteresse. Bon. Donc depuis, on l'appelle la cité de David, Ir David en hébreu. Voilà. Et donc ça n'est pas du tout l'emplacement de la vieille ville de Jérusalem. Si vous allez à Jérusalem et que vous voyez, il y a des murs et des fortifications autour de la ville de Jérusalem. Mais les murs que vous voyez sur les photos ou si vous y êtes allé, ce sont des murs d'époque ottomane. C'est ottoman, c'est il y a quelques siècles, il y a un demi-millénaire. C'est Soliman le Magnifique qui a fait ça, et c'est genre, je sais pas, 16e, 17e siècle. Donc c'est il y a quelques siècles seulement. Je suis pas très compétent sur ces périodes-là parce que c'est très récent pour moi. Mais donc, il ne faut pas vous leurrer quand vous dites, ah, c'est la ville de David. En fait, la ville de David, elle est au sud. Il faut sortir et il faut aller sur la petite pente au sud. Ça paye pas de mine, c'est une petite ruelle. Enfin bref, bon, maintenant ça a été aménagé. Hein, on peut visiter le site archéologique, mais du coup il faut bien être conscient que voilà la situation actuelle de la ville de Jérusalem n'a rien à voir avec. Puis il y avait une vallée à l'époque qui a été comblée à l'époque romaine, donc il y a 2000 ans. Enfin bref, donc je vous expliquerai tout ça le jour où on ira. Alors voilà, donc bref, tout va bien pour David. Chapitre 5. Il est roi sur tout Israël, il prend sa capitale à Jérusalem. Chapitre 6, David amène le coffre à Jérusalem. Hein, le coffre de l'Alliance, l'Arche de l'Alliance, Indiana Jones, vous connaissez. Bon. Donc, il amène le coffre dans Jérusalem. Alors, sauf que ça se passe mal, puisque il y a un peu... Uza, on nous dit dans chapitre 6, verset 6, lorsqu'ils arrivèrent à l'ère de Nakhon, Uza étendit la main vers le coffre de Dieu et le saisit parce que les bœufs avaient glissé. Donc on a l'idée de, on pose le coffre et on fait tirer par une paire de bœufs, ou par plusieurs paires de bœufs, je sais pas combien il y en a, bref. Et donc du coup, sauf qu'à un moment donné, forcément, ça tangue un petit peu, et puis, hop, le coffre risque de tomber, donc il tend la main pour le rattraper. Mais seulement, voilà, qu'est-ce qu'on dit, verset 7, Yahvé se mit en colère contre Uza et Dieu l'abattit là à cause de cette insolence. Donc il est foudroyé sur place. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Uza mourut là, près du coffre de Dieu. David se fâcha, parce que Yahvé avait ouvert une brèche en Uza, etc. Bref, je continue. Verset 9, David fut saisi par la crainte de Yahvé. Verset 10, il ne voulut pas prendre le coffre de Yahvé chez lui dans la ville de David. Et oui, rappelez-vous l'Exode, quand Dieu donne toutes les instructions sur comment il faut s'y prendre, quels matériaux il faut utiliser, quelles dimensions il faut avoir, etc. Dieu avait donné des instructions hyper précises. Et pareil, quand il fallait transporter, quand il fallait démonter le tabernacle pendant les 40 ans dans le désert, eh ben on vous explique, on dit attention, ça, tel et tel truc, c'est... Rappelez-vous, il y a différentes tribus, enfin différents groupes de Lévites, tel groupe de Lévites va porter tel type d'équipement, tel autre groupe de Lévites va porter tel autre équipement, et on vous dit comment faut les porter, et on vous dit attention, ça faut mettre dans des barres, hein, pour l'arche, il faut mettre dans des barres, il faut soulever avec des gens de chaque côté, il faut surtout pas toucher, enfin bref, manifestement, David n'a pas tenu compte des instructions qui étaient très claires. Donc la colère divine s'abat. Alors c'est un peu radical, mais c'est le côté sacré, saint de Dieu est un Dieu saint et on peut pas faire n'importe quoi. Et le problème de Saül, c'était précisément que Saül était quelqu'un de très religieux, qui n'en faisait qu'à sa tête, et il avait des bonnes intentions, en disant tiens, je vais faire des sacrifices, mais c'est pas à lui de faire des sacrifices. Non, Saül, tu es roi, c'est pas les rois qui font les sacrifices. Il y a des instructions très claires sur qui fait des sacrifices et comment. T'as pas le droit. Bon. Et donc Saül s'était fait rejeter à cause de sa désobéissance. Alors que David, justement, ce qui est bien avec David, c'est que c'est quelqu'un qui est obéissant. Et bien là, malheureusement, il n'est pas si obéissant que ça. Donc, on lui donne une leçon en disant « Non, désolé, tu es religieux, tu dis « Ah tiens, je vais ramener le coffre, d'abord personne ne te l'a demandé, et en plus tu ne fais pas comme il faut. » Bon. Alors finalement, du coup, il comprend, le deuxième essai est le bon. Et donc ça, c'est des histoires qui sont récurrentes. Rappelez-vous dans le livre de Josué, après la prise de Jéricho, ils veulent prendre Aï, et puis ils se prennent une raclée. Pourquoi ? Parce que Akan ou Akan, enfin je ne sais pas comment vous les prononcez, avait gardé des choses pour lui. Alors que quand on avait pris Jéricho, on avait dit faut rien garder. Et du coup c'était à cause de ça que le peuple. Et donc Dieu disait non, désolé. Voilà, Dieu, c'est un Dieu exigeant. Il dit si je vous donne des instructions, c'est comme moi que je donne des instructions quand je vous donne un examen. En hébreu, par exemple, je vous dis, c'est comme ça, il ne faut pas faire autrement. Voilà. Je n'ai pas encore corrigé les copies, il y en a qui ont peur, mais non, ce matin, on avait l'examen d'hébreu, c'est pour ça que je dis ça. Mais je n'ai pas encore corrigé les copies. Mais... Oui. Alors, où est-ce qu'elle était ? Elle était, alors, pendant toute la période des juges, il y a un peu une incertitude. Silo, on voit que le site de... Alors, normalement, il y a le tabernacle. Hein, dans l'Exode, on vous explique qu'on a le tabernacle qui est transportable, démontable et transportable. Quand on traverse le Jourdain, il y a des villes importantes. Gilgal est une ville importante, manifestement. Mais ensuite, il y a des villes comme Shiloh ou Bethel qui sont des villes importantes aussi. Donc, où est l'arche, à quel moment, etc. Rappelez-vous que dans le premier livre de Samuel, il y a, les Philistins emportent l'arche. J'ai chapitre 4-5 du premier livre de Samuel. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Il y a la guerre contre les Philistins. Et puis les Philistins, donc chapitre 4 du premier livre de Samuel. Et puis, allons prendre, verset 3b, allons prendre à Silo le coffre de l'alliance du Seigneur. Et donc, ils vont chercher le coffre de l'alliance et le ramènent à Silo. Et puis, c'est là, ils ont tous les maux, ils ont toutes les plaies du monde qui leur arrivent. Ils mettent le coffre dans le temple de leur Dieu, la statue tombe, etc. Enfin bref, donc ça dure comme ça, 2-3 chapitres. Et puis finalement, chapitre 6, ils en ont marre et ils renvoient, ils réexpédient l'arche. Donc, par exemple, on sait qu'à ce moment-là, l'arche était à Shiloh. Elle a pu se balader, en tout cas. Mais on sait que Shiloh, c'était un centre important, en tout cas à cette époque-là. Donc, du coup, il l'amène. Voilà. Alors, donc cette fois-ci, ça marche parce qu'ils font les choses comme il faut. Tout le monde se réjouit. David est content. Il danse. Regardez, chapitre 6, verset 16. Comme le coffre de Yahvé est entré dans la ville de David, Michal, fille de Saül, puisque donc, rappelez-vous que David avait épousé Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant Yahvé et elle le méprisa dans son cœur. Peut-être qu'il dansait mal, moi j'en sais rien, après tout, il a... bon, voilà. Enfin, en tout cas, manifestement, ça lui a pas plu. Alors, elle lui dit, un peu plus loin, comme ça, verset 20, elle dit « Quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être exposé aux yeux de ses servantes et de ses gens comme s'exposerait un homme de rien. » C'est ironique, hein, « Quelle gloire, etc. » Voilà, bravo. Bon. Et David répond, verset 21, « C'est devant Yahvé que j'ai agi ainsi, lui qui m'a choisi de préférence à ton père. » Bleu. Donc déjà, voilà, on met les points sur les « i ». Et c'est devant Yahvé, à la fin du verset, que je continuerai à jouer de la musique. Verset 22, je veux paraître encore moins que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Et c'est auprès des servants dont tu parles que je vais avoir ma gloire. Autrement dit, je m'en fiche. Moi, c'est devant Dieu que je danse. Et puis voilà. Bon. Et il est prêt à se ridiculiser encore plus, s'il faut. Bref. Donc vous voyez, là, David, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Manifestement, voilà. Il a toutes les qualités. Chapitre 7. Le point de bascule ou l'apogée, c'est pas le point de bascule. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore au point de bascule. On continue. Là, on arrive à l'apogée. Il a la visite du prophète Nathan et le prophète Nathan lui fait cette annonce en disant, je vous lis pas tout, hein, mais chapitre 7, donc verset 9, verset 9b, je te ferai un grand nom comme le nom des grands de la terre. Donc c'est Dieu qui parle à David. Et puis il dit. Verset 11b, le Seigneur t'a annoncé que c'est le Seigneur qui fera une maison pour toi. Donc c'est Yahvé qui fera une maison pour toi. Alors, le sens de maison, la maison c'est là qu'on habite, mais c'est la maison, c'est la maisonnée, donc c'est aussi les habitants, plus particulièrement les enfants. Et quand il s'agit d'une maison royale, c'est une maison dynastique. Autrement dit, c'est une métonymie pour parler de la dynastie. Vous savez ce que c'est qu'une métonymie ? C'est quand on prend une partie pour le tout ou un référent pour désigner un ensemble. Quand je dis, je ne sais pas, il y a une crise au Proche-Orient, la Maison Blanche dit que, etc., 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 D'abord, une maison, ça ne parle pas, même si elle est blanche. Et quand on dit la maison blanche, vous voulez dire, mais il y a laquelle, il y en a beaucoup, tout le monde comprend. Quand on dit la maison blanche, tout le monde comprend qu'on fait référence au pouvoir politique américain. Voilà. Donc là, c'est pareil. Quand on parle de la maison, en fait, et déjà dans l'Antiquité, la maison d'un roi, en fait, c'est sa dynastie. Bon. Donc, il dit, quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, on dit quand tu mourras, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. Verset 12. Verset 13, c'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. Donc, David voulait bâtir un temple et donc Dieu dit non, c'est pas toi qui vas bâtir une maison pour moi, c'est moi qui vais bâtir une maison pour toi, c'est-à-dire je vais établir ta dynastie, ton fils, lui, bâtira un temple. Donc, on présente déjà le fils de David et là, je vous donne déjà le nom, c'est Salomon, on y reviendra. Etc., etc. Bref, mais regardez verset 15, « Ma fidélité ne lui sera pas retirée comme je l'ai retirée à Saül que j'ai écarté devant toi. » Verset 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Alors, pour toujours, vous l'avez 15 000 fois dans ce passage. Donc c'est très clair, une dynastie éternelle. Donc, David est le premier d'une dynastie éternelle. Et c'est là, c'est sur ce texte-là que va se bâtir toute l'attente du roi de la lignée de David. On attend un roi de la lignée de David. Et le jour où on n'en a plus, on dit, oui, bah d'accord, Dieu nous punit parce que, mais ce ne sera pas pour toujours. Hein ? Je veux dire, verset 14, je serai son père, lui sera mon fils, s'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes, etc. Voilà, donc il dit, Dieu peut châtier son peuple, il peut châtier son roi, mais ça n'est que temporaire. Au final, il rétablira quand même la royauté de David. Donc les gens tiennent à cela impérativement. David est roi, il a reçu l'onction, il est donc loin, L'OINT, Mashiach en hébreu, c'est-à-dire Messie en français. Messie, c'est la transcription française de Mashiach. Donc, l'attente du Messie, quand on attend le Messie, on attend le roi, fils de David. Et cette attente, elle sera d'autant plus forte lorsque règnera à Jérusalem des rois qui ne sont pas descendants de David. Et ça va se produire au IIe siècle avant notre ère. On est en train de célébrer cette semaine la fête de Hanouka. Vous connaissez la fête de Hanouka. Bon, je ne suis pas prof de judaïsme ici, mais quand même, c'est la fête qui célèbre, c'est la seule fête juive qui n'est pas dans la Bible hébraïque, elle est dans le livre des Maccabées, qui est dans la Bible, dans la plupart des Bibles chrétiennes, mais qui n'est pas dans la Bible hébraïque. Et qui raconte comment, après que le roi Antiochus IV, un roi séleucide de la dynastie séleucide, donc après Alexandre le Grand, on est au IIe siècle avant notre ère, on est à l'époque hellénistique, eh bien, il a désacralisé le temple de Jérusalem. Bref, il y a une révolte, des prêtres se révoltent contre lui, soulèvent une armée, arrivent à se débarrasser de lui, à reprendre le pouvoir. Et donc, ils établissent un pouvoir autonome à Jérusalem qui va durer à peu près une centaine d'années. Vous voyez, entre moins 160 et moins 60. Et pendant à peu près un siècle. Je ne vous donne pas les années exactes. Hein. Après ça, vers moins 60 et quelques, en fait, ce sont les Romains qui vont venir ensuite avec Vespasien, etc., qui vont reprendre le pouvoir. Donc vous avez à peu près un siècle d'autonomie, et ce sont des prêtres, ce sont les Asmonéens, la dynastie asmonéenne, les Maccabées, Judas, Maccabée, etc., etc. Et il va y avoir cette dynastie asmonéenne qui va régner. Au départ, ce sont donc des grands prêtres, et ils ont aussi des fonctions politiques. C'est pas très gênant, finalement. Sauf qu'à un moment donné, ils vont finir par prendre le titre de roi. Et on sait parce qu'on a les pièces de monnaie. Donc, vers 100 avant notre ère, donc pendant quelques décennies, ça se passe bien, puis vers 100 avant notre ère, ça y est, le pouvoir commence à leur monter à la tête et ils commencent à se proclamer roi. Et on a les pièces de monnaie des deux côtés, d'un côté en araméen, de l'autre côté en grec. Je pourrais vous montrer les pièces de monnaie, enfin, les photos, moi je ne les ai pas, mais elles sont. Mais bref, je pourrais vous montrer les photos des pièces de monnaie, où on dit il est roi. Et alors là, d'un seul coup, les gens tiltent. Mais non, ce sont des prêtres, donc de la tribu de Lévi, alors que le roi, il doit être de la tribu de Judas. Donc, on ne peut pas être à la fois de la tribu de Lévi, de la tribu de Judas, ce n'est pas possible. Donc ce sont pas, c'est pas le roi qu'on attend. Ils n'ont pas de légitimité à occuper le trône. Ce sont des usurpateurs. Et c'est là que commence à se développer un sentiment anti-asmonéen et une attente du Messie, fils de David. Voilà. Et donc, cette attente messianique va se développer au cours du 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire quelques décennies avant la naissance d'un certain Jésus de Nazareth. Bon, je ne veux pas plus loin pour aujourd'hui. Nous revenons au deuxième livre de Samuel. Après cette annonce fracassante, de la première moitié du chapitre 7. Là, dans la deuxième moitié du chapitre 7, bien sûr, vous avez une prière de David en réaction, qui et s'émerveille, etc. Vous avez des paroles fabuleuses. Alors là, c'est des textes qui sont théologiquement denses, bien sûr. Verset 22, « Que tu es grand, Seigneur Yahvé, nul n'est semblable à toi, il n'y a pas de Dieu à part toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Y a-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme Israël, ton peuple, que les dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et pour lui donner un nom, etc. Tu as fait pour eux de grandes choses, tu as accompli des œuvres redoutables pour ton pays, devant ton peuple, que tu as libéré de l'Égypte, etc. » Enfin, donc c'est l'espèce de grand discours avec une rhétorique impeccable. Verset 26, « Que ton nom soit grand pour toujours et que l'on dise « Yahvé des armées et Dieu sur Israël, que ma maison à moi, David, ton serviteur, soit affermie devant toi. » Donc ma maison, c'est-à-dire ma dynastie, bien sûr. « Car toi-même, Yahvé des armées, Dieu d'Israël, tu m'as informé, je bâtirai une maison pour toi, etc. etc. » Maintenant, Seigneur Yahvé, verset 28, « C'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, etc. etc. Tu m'as annoncé ce bienfait, veuille bénir ma maison afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur Yahvé, qui a parlé, et par ta bénédiction, ma maison sera bénie pour toujours. » Donc la deuxième partie, chapitre 7, David répond à ça. Alors, ah oui, un petit mot sur cette expression, donc maison de un tel, maison de David. Donc je vous disais, le mot maison est utilisé au sens de dynastie, et ça c'est attesté, y compris dans toute la littérature du Proche-Orient ancien, notamment toute l'historiographie assyrienne et babylonienne. Hein. En Mésopotamie, les rois assyriens et babyloniens tiennent des chroniques très précises de tout ce qui se passe, des guerres, des campagnes militaires, et on les a, parce que c'était écrit en dur, c'était écrit sur des tablettes d'argile, ou même sur des bas-reliefs de murs, dans les palais, etc. Donc, c'est pas des surfaces organiques. Quand vous écrivez sur du cuir ou sur du papyrus, ça se désagrège avec le temps. En général, il reste rien, mais quand c'est sur un support minéral, ça reste. Et donc, il est fait mention d'un certain nombre de dynasties, notamment quand ils vont faire des campagnes militaires en Occident, sur la côte levantine, la côte méditerranéenne, donc ce qui correspond aujourd'hui à la Syrie, au Liban, à la Jordanie, à Israël et Palestine, etc. Donc, et il cite les noms des rois. Et par exemple, on va dire, il y a la maison de un tel, la maison de un tel, et on donne le nom du royaume d'après le nom du fondateur. Par exemple, le royaume d'Israël est connu sous le nom de maison d'Omri. Alors qui est Omri? Ben, on y viendra tout à l'heure. C'est celui qui a établi la capitale du royaume du Nord à Samarie. C'est lui qui a dit, tiens, je vais fonder ma capitale à Samarie. Eh bien, le royaume de Juda est attesté comme étant la maison de David. Et c'est très intéressant parce que on a cette attestation sur une stèle araméenne c'est quelle époque, je sais pas, 9e siècle avant notre ère, quelque chose comme ça, deuxième moitié peut-être du 9e siècle avant notre ère, où un roi araméen a érigé une stèle à Dan. Dan, c'est un site qui est à la frontière entre Israël et le Liban et la Syrie. Vous voyez, là, à peu près tout au nord du Golan, la région un petit peu difficile au pied de l'Hermon, là. Eh bien, là, on a trouvé cette stèle de ce roi araméen qui se vante d'avoir mis une raclée au roi d'Israël et au roi de Juda. Eh bien, le roi de Juda, c'est le roi de la maison de David, de la dynastie de David. Bon. Et cette stèle a été découverte en 1994. C'est pas vieux. C'était quoi, il y a même pas 20 ans, quoi. Et c'est très intéressant, parce qu'avant, il y avait toujours des gens qui disaient, bon, enfin, David, bon, c'est un personnage qui n'a jamais existé, c'est une construction littéraire, etc. Alors, moi, je veux bien que le David qu'on nous présente soit un David, évidemment, là, vous voyez bien, tous les textes, on nous raconte des histoires, des machins, bon, c'est très bien, tout ça, ça peut être romancé autant qu'on veut. Mais de là à dire que David n'a jamais existé, je trouvais que c'était un peu prétentieux, disons, d'affirmer que David n'avait jamais existé. Je ne sais pas comment on peut affirmer que David n'a jamais existé. Sur quelle base, quoi. Alors, oui, parce qu'elle est 842 avant notre ère. Je sais pas, il faudrait que je regarde, je ne l'ai pas en tête, cette stèle. Mais selon l'identification du roi araméen qui se vante, et on a les noms des rois d'Israël, de Juda, etc. Donc au niveau chronologique, on doit pouvoir la dater. Elle a pu être érigée quelques années après. Maintenant, c'est toujours difficile quand on fait une stèle parce qu'on a gagné une bataille, ça peut être quelques années après. Alors l'année, je ne l'ai pas en tête. Mais je peux vous dire ça tout de suite, juste après le cours, on peut aller faire un tour dans mon bureau. Je peux vous montrer une photo de la stèle, si vous voulez, etc. etc. Bon. Donc, et puis au niveau de la stratigraphie, je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec les fouilles qui ont été faites à Tel Dan, précisément pour ça. On peut le visiter, le site de Tel Dan est très intéressant. Outre le fait que c'est un parc naturel et qu'il y a une petite rivière et qu'on peut pique-niquer là-bas, c'est marrant, les gens le week-end ils vont faire un pique-nique là-bas, il y a un site archéologique où on a trouvé cette stèle et il y a trouvé plein d'autres choses aussi, notamment des activités cultuelles, il y a des sacrifices, etc. Enfin bref, c'est intéressant. Enfin en tout cas, aujourd'hui on a la preuve que David a bien existé. Donc, faut qu'on arrête de dire que David n'a jamais existé. Bien sûr que si, il a existé. Maintenant, le fait qu'il a existé, alors on apprend d'une part, cette stèle nous apprend d'une part qu'il a existé, d'autre part que c'est bien lui qui a établi une dynastie pour le royaume de Juda. Maintenant, voilà, après ça, la stèle, elle ne va pas plus loin que ça. Ça ne veut pas du tout dire que tout ce qu'on lit dans la Bible est vrai, évidemment. Il ne faut pas non plus, il y a des gens qui sont un peu binaires, ou bien tout est faux, ou bien tout est vrai. Non, vous pouvez très bien imaginer que David a bien existé. Puis ensuite, c'est pareil, hein, quand vous lisez l'épopée de Gilgamesh, quand vous lisez les histoires de chevalier de Arthur, du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, bon, c'est pas parce que le roi Arthur a existé que tout ce qu'on raconte sur lui est vrai. Bref. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, il y a donc cette dynastie formidable. Le chapitre 8 se veut un peu comme une conclusion. Il a des chapitre 8, bien sûr, il remporte des victoires formidables contre les Philistins, verset 1, les Moabites, verset 2, les Araméens, verset 6. Bref, et puis on continue, hein, verset 12, Aram, Moab, Ammonites, Philistins, Amalek. Bref, tout le monde, Édom, verset 14. Bref, on nous dit David a la victoire sur tout le monde, tout se passe bien. Et puis il y a la liste de ses fonctionnaires à la fin du chapitre 8, documents administratifs. Et puis on se dit, ça y est, on pourrait s'arrêter là, tout va bien, son royaume fonctionne bien. Et c'est là que les choses vont commencer à aller mal. Au chapitre 11, notamment, 11-12, vous avez l'histoire de Bethsabée. Donc, David est là tout seul. Il prend le soleil et il remarque... donc, il est sur la terrasse de chez lui. Et puis là, parce que vous savez, les bâtiments sont plats, les toits sont plats à l'époque, évidemment. Même encore aujourd'hui, dans ces régions-là, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de neige. Donc, très peu, donc il n'y a pas besoin d'avoir des toits pointus. Donc, et puis là, il voit une belle femme qui se baigne, nous dit-on, verset 2, elle était très belle, etc. Du coup, il la fait venir, il couche avec elle, alors que pourtant, il sait qu'elle est mariée. Et elle tombe enceinte, verset 5, et donc, du coup, catastrophe, que faire ? Alors, du coup, il se dit, je vais faire revenir son mari qui est parti à la guerre, il va coucher avec elle, et puis on dira que c'est lui le père, puisqu'à l'époque, on ne fait pas les tests d'ADN. Sauf que lui, il fait du zèle en disant, mais mes compagnons sont à la guerre, comment moi, je pourrais rentrer chez moi, profiter de ma femme, alors que mes compagnons d'armes... on dirait, c'est un peu comme, dans les films américains, les Marines, où je sais pas, on laisse jamais personne derrière, tout ça. Enfin bref, voilà, on est solidaires et tout. Enfin bref, bon. Alors du coup, David se dit mince, plan B. Le plan B, c'est qu'on le renvoie au combat et qu'il donne des instructions pour qu'on le mette au front, sur la première ligne. Et puis finalement, il va se faire tuer. Et de fait, il se fait tuer. Et donc du coup, il épouse Bethsabée et on se dit, ça y est, tout se passe bien. Sauf que, évidemment, nous dit-on à la fin, verset 27... verset dernière phrase, ce que David avait fait déplut à Yahvé, forcément. Donc au chapitre 12, Nathan revient. Vous savez, le Nathan, c'est le même que celui qui au chapitre 7 disait à David, c'est formidable, tu es exceptionnel et Dieu va bâtir pour toi et ta dynastie sera éternelle. Le même Nathan arrive au chapitre 12 et là c'est tout le contraire. Et il lui met une grosse claque en disant mais qu'est-ce que t'as fait ? Heureusement, David se repent. David se repent, contrairement à Saül. Vous voyez, c'est là qu'on voit quand même la différence, c'est que David... Alors finalement, verset 13, chapitre 12, verset 13, donc David dit à Nathan, j'ai péché contre Yahvé. Nathan répondit à David, Yahvé, laisse passer ton péché, tu ne mourras pas. Mais d'un autre côté, il y aura quand même des conséquences, en particulier l'enfant meurt. Donc ils sont tristes, il y a le deuil. Et puis, verset 24, David consola Bethsabée, sa femme, il alla avec elle, il coucha avec elle, elle mit au monde un fils qu'il appela du nom de Salomon. C'est la naissance du roi Salomon. Enfin, il n'est pas roi pour l'instant. Bon. Enfin, vous voyez quand même que voilà, David, l'image de David commence un peu à s'effriter. Oui ?
On retrouve un petit peu ce schéma du deuxième né, en fait.
Comme dans la Genèse ? Oui, c'est vrai. Bon, alors, sauf que là, dans la Genèse... C'était Dieu qui, d'une certaine manière, était favorable à ces renversements de situation où le second prenait la place du premier, etc. Là, on est quand même dans un cas très différent, c'est que c'est un cas d'adultère et ça déplaît à Dieu et donc c'est une punition divine, quoi. Donc je pense qu'il faut, c'est pas non plus tout à fait la même situation. Alors après ça, à partir du chapitre 13, entre en scène Absalom, qui est donc un des fils de David. Alors, il se passe des histoires. Alors, le chapitre 13, c'est malheureusement très sordide. C'est une histoire d'inceste où un frère couche avec sa sœur. Et après ça, l'autre frère dit à la sœur, tais-toi. Bon, c'est des histoires très sordides. Malheureusement, c'est très proche de ce qu'on vit dans beaucoup de familles où il y a des histoires très tristes et on demande aux gens de rien dire. Enfin, bref. Donc, je vous laisse découvrir ce chapitre. Mais le personnage d'Absalom entre en scène et très vite, il va vouloir prendre, devenir calife à la place du calife. Il va vouloir prendre la place de David. Donc à partir du chapitre 15, il y a vraiment un coup d'État. Il arrive, hein, il fait sa campagne politique. Hein, quand il croise les gens se plaignent hein, de la politique, enfin, de ce qui se passe. Et Absalom, alors, chapitre 15, verset 3, Absalom lui disait « Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. » Tu vois, Absalom disait « Ah, si j'étais juge dans le pays, etc. etc. » C'est comme les politiciens, ils sont là. Quand Sarkozy était président, forcément la gauche disait « Ah, mes pauvres, bah oui, c'est sûr, avec Sarko, etc. » Mais si j'étais roi, moi, président, disait Hollande, maintenant il est président. Et c'est ça. Et là, c'est Absalom dit « Moi, président, moi, roi. » Et ça marche. Ça marche avec Hollande, ça marche avec Absalom. Finalement, Absalom, donc, coup d'État, David doit s'enfuir. David dit à tous les gens, verset 14, « Prenons la fuite, sans quoi nous n'échapperons pas à Absalom. » C'est super, hein, bref. Donc, ça dure quelques chapitres, comme ça. On joue à cache-cache. Finalement, Absalom meurt. Chapitre 19, verset 1er, « Le roi David, c'est-à-dire bouleversé, monta dans la chambre à l'étage, puisqu'il apprend que son fils est mort. Il disait en marchant, « Mon fils, Absalom. Ah, si j'étais mort à ta place, Absalom, mon fils. » Le même Absalom qui vient de faire un coup d'État, qui vient d'essayer de le tuer. C'est quand même assez extraordinaire. Donc je passe encore un certain nombre de détails. Chapitre 20, il y a encore une autre tentative de coup d'État. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe à l'époque. Un certain Sheba. Bon, là, ça dure pas. Hein. Au chapitre 20, c'est fini. On n'en parle plus. Et puis à la fin du chapitre 20, vous avez de nouveau une liste de fonctionnaires. Comme à la fin du chapitre 8. Donc vous voyez, c'est un peu, on clôt une section en disant, bah, écoutez, voilà, et voilà la liste des fonctionnaires. Et puis on pourrait s'arrêter là presque. Au chapitre 20, alors à partir du chapitre 21, vous avez un petit peu des chapitres qui ont été ajoutés et qui n'ont pas forcément un ordre, voilà, très bien. Bon, au chapitre 21, on revient sur Saül, pas sur lui, mais sur sa famille et sur ses ossements qu'on va rapatrier, etc. Une sorte d'épilogue. C'est une façon, si vous voulez, de tourner définitivement la page sur Saül et ses descendants. On avait parlé un peu plus tôt d'Ishbochet, un peu plus loin, il y a eu un certain Mephibochet dont je vous ai pas parlé, mais voyez au chapitre 19. Verset 25, tout ça, bon, je ne suis pas sûr ces détails-là. Donc là, c'est une sorte d'épilogue sur, voilà, ça y est, finalement, et tout le monde est enterré, et Saül et Jonathan. Verset 14, on ensevelit les ossements de Saül et de Jonathan, son fils au pays de Benjamin, à Tsela, dans le tombeau de Kish, père de Saül. Donc voilà, c'est une sorte de Non, quand je dis Kish, c'est pas la Kish Lorraine. Mais si vous voulez, c'est le père de Saül qui s'appelle Kish. Donc on rapatrie les ossements et donc voilà, on les enterre dignement, si vous voulez. C'est une fin digne, c'est épilogue, on tourne la page. Bon. Et puis ensuite, il y a des petites histoires. Dans la deuxième partie du chapitre 21, on vous raconte des combats contre les Philistins. Et c'est là qu'on vous dit, par exemple, au verset 19, « Elhanan, fils de Yahare Oregim, le Bethléemite, tue à Goliath, le Gathite, parce qu'il avait une lance dont le bois était comme l'ensouple des tisserands. » Alors le fameux Goliath, c'est 1 Samuel 17, hein, c'est David et Goliath que vous connaissez bien. Et regardez chapitre 17, 1 Samuel 17, verset 4. Un champion sorti du camp des Philistins, et avant ça, il se nommait Goliath, il était de Gath, avait une taille de 6 coudées et un empan, etc., etc., etc. Et regardez verset 7, le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands. Hein, vous avez la même expression. Donc c'est le même Goliath. Hein, c'est pour dire, ah non, c'est un autre Goliath qui vient de la même ville et qui l'a lui aussi. Non, bon, faut pas exagérer. C'est clairement, il y a une tradition. C'est des mythes, si vous voulez. Il y a le mythe du géant Goliath avec etc. Et on le tue. Et dans un cas, bah, c'est un certain Elhanan. Et puis dans un autre cas, on s'est dit quand même, ce serait mieux si c'était quand même David, parce qu'il faut quand même, parce que je vous avais expliqué qu'il y a deux façons pour David d'entrer à la cour de Saül. Il y a d'abord, c'est un jeune musicien. Et ça colle très bien, mais simplement, ça colle pas avec l'image du roi. Le roi, si c'est un jeune et faible, un petit gars efféminé qui joue de la harpe, avec petite voix fluette et tout, non, désolé, mais c'est bon. C'est quand, non, David, c'est celui qui va abattre le géant Goliath. Bon, c'est probablement pas, évidemment, la version d'origine. La version d'origine, vous l'avez là, dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 19. Bon. Et puis, vous avez encore d'autres histoires. Alors, par exemple, au chapitre 22... On vous donne un psaume de David, par exemple. Voilà, on dit, ben voilà, David prononça pour le Seigneur les paroles de ce chant, etc. Donc, tout le chapitre 22, c'est un psaume de David qui est très beau. Et j'aimerais bien, pourrait passer une heure et même plus, des heures sur ce psaume, puisqu'évidemment, il y a toute une image, toute une symbolique, une iconographie qui est celle que l'on a au Proche-Orient ancien. Verset 10, il inclina le ciel, descendit avec une épaisse nuée sous les pieds, il était monté sur un kéroub et il volait. Les kéroubs, c'est des sortes de sphinx ailés, etc. Bref. Verset 14, Yahvé tonna depuis le ciel, le Très-Haut fit retentir sa voix, il lança des flèches. Si vous regardez à Ougarit, Baal, le dieu de l'orage, donc le dieu, il est là, et là à la main, il lance des éclairs, etc., etc. Donc toutes les images que vous avez là, c'est ce qu'on a dans la littérature du Proche-Orient ancien et qui est reprise. Verset 36, tu me donnes le bouclier de ton salut. Allez voir dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 6, verset 16, etc. Enfin, bon. Donc c'est un psaume absolument fabuleux qui sera d'ailleurs tellement bien qu'on va le garder dans le livre des psaumes. Donc vous le retrouvez dans les psaumes, chapitre 18. C'est du copier-coller avec des petites variantes textuelles qui sont justement croustillantes, intéressantes. Quand vous serez grand et qu'on pourra faire de la critique textuelle, on pourra mettre côte à côte 2 Samuel 22 et psaume 18 et vous verrez les variantes. Bref. Hop, donc à un moment donné, un rédacteur s'est dit, tiens, allez, hop, je vais coller un petit chant de David. Et puis, chapitre 23, voici les dernières paroles de David. Bon, ça y est, c'est les dernières paroles, donc on se dit, ça y est, c'est la fin, il meurt. Alors effectivement, donc il donne ses paroles, verset 2, le souffle de Yahvé a parlé par moi, sa parole est sur ma langue. Ça veut dire que David est prophète, petite parenthèse, ça c'est très important dans la littérature juive, David est perçu comme un prophète. Et les psaumes sont pas... Il y a une discussion, vous savez, sur la répartition tripartite du canon. La loi, les prophètes et les écrits. Torah, Nevim, Ktuvim. Et souvent, on se dit, les psaumes font partie de la troisième partie. Il y a la loi, il y a les prophètes et ensuite les hagiographes. Et les psaumes, et dans la troisième section des hagiographes. En fait, dans l'Antiquité, il y avait peut-être simplement une répartition bipartite, la loi et les prophètes. Et les psaumes faisaient partie des prophètes parce que David est considéré comme prophète. Et de fait, un certain nombre de psaumes sont prophétiques. Enfin voilà, donc verset 7, ça y est, on a les dernières paroles de David. Donc ça y est, on se dit, ça y est, la dernière, c'est la fin. Eh ben non, on vous redonne verset 8, des histoires avec des vaillants, un peu comme à la fin du chapitre 21, vous aviez des histoires avec des vaillants guerriers de David, notamment qui abat Goliath. Eh ben là, vous avez de nouveau des histoires de vaillants guerriers de David. Alors hop, pas de problème. Donc on vous donne des noms d'un certain, je sais pas, verset 9, Éléazar, verset 11, Shammah... verset 18, Avishai, verset 20, Benaïa, etc. Bref, à la fin, verset 39, ils sont 37. On dit qu'il y en a 37. On se dit, bon, ça y est, c'est fini. Eh ben non, chapitre 24, vous avez encore une histoire, et c'est l'histoire du recensement. Yahvé se mit de nouveau en colère contre Israël. Il incita David à leur faire du tort en disant, va, dénombre Israël et Juda. Et donc, il y a l'histoire où Dieu, donc Yahvé, incite David à faire un recensement, ce qui est, a priori, une mauvaise chose. Alors, pourquoi c'est une mauvaise chose ? On ne nous le dit pas. Alors les explications habituellement proposées, c'est de dire, bah oui, parce que si on veut vérifier combien de soldats on a, c'est parce qu'on pense qu'on va avoir la victoire en fonction de la puissance armée, et notamment du nombre de soldats. Or, précisément, si c'est Dieu qui donne la victoire, il n'y a pas besoin d'être nombreux. Pensez à Gédéon, si vous lisez l'histoire de Gédéon dans les juges, Dieu lui dit, vous êtes trop nombreux, et on exclut petit à petit tout un tas de soldats pour finalement se retrouver à quelques centaines face à des milliers, et pourtant Dieu donne la victoire. Et donc l'idée, c'est, si tu fais un dénombrement, ça veut dire que tu comptes sur tes propres forces, plutôt que de t'appuyer sur la force de Dieu, sur la puissance de Dieu, et si c'est Dieu qui te donne la victoire, t'as pas besoin de compter sur tes propres forces. Donc c'est une sorte de manque de confiance. Ça trahit, si je fais un dénombrement, ça trahit le fait que je n'ai pas confiance en Dieu et que je m'appuie sur moi plutôt que de m'appuyer sur Dieu. Donc c'est mal ce que fait David. C'est mal ce que fait David et en même temps c'est Yahvé qui l'y pousse. Alors bon, faut savoir. Et du coup, Dieu va le punir et va lui proposer trois châtiments. Je te propose trois choses, verset 12. Et puis finalement, David en choisit une des trois et c'est ce qui se passe. Et puis finalement, ça s'arrête et il y a quand même des gens qui meurent. Mais finalement, ça va mieux et à la fin, David érige un autel. Alors c'est quand même une fin bizarre, et surtout pour David, ça ternit vachement l'histoire de David, alors que moi j'aurais préféré, je sais pas pour vous, mais enfin ça, on pouvait terminer à la fin du chapitre 20, on a la structure administrative du royaume, ou peut-être, je sais pas, après chapitre 23, les dernières paroles de David, pourquoi pas terminer après chapitre 22 avec ce si beau psaume de David, etc., pourquoi avoir ajouté le chapitre 24, qui est problématique. Alors ce chapitre 24, vous le retrouverez dans le premier livre des chroniques, on y viendra, ce sera à la toute fin de l'année, donc ça nous renvoie au mois d'avril, et vous avez le même passage, sauf que c'est pas Yahvé qui se met en colère et qui pousse David à faire le recensement. C'est pas Yahvé qui pousse David, c'est Satan qui pousse David à faire le recensement. Ah, c'est quand même très différent, hein. C'est dans 1 Chronique 21. C'est, alors, on en reparlera quand on parlera du livre des Chroniques. Ce sera, on terminera l'année là-dessus. Et c'est juste pour vous dire que vous voyez bien comment la Bible se construit. On vient insérer des épisodes, et on insère des épisodes parce qu'à un moment donné, on a envie de rééquilibrer. On a dit, bon, là, Dibo, on a parlé beaucoup de ça. C'est super. Bah, tiens, allez, hop, je vais te coller l'histoire de Bethsabée quand même, parce que c'est pas tout, mais David, il faut quand même rappeler que... Bon. Et puis, hop, 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 hop. Ah, mais on va mettre des vaillants exploits. Ah, super. Bon, alors, on va mettre... Allez, tiens, on va mettre des paroles prophétiques de David. Allez, tiens, je vais lui mettre un petit discours des dernières paroles. Allez, je vais lui mettre un discours... Allez, on va lui mettre un petit psaume. Et puis, non, mais là, quand même, ça termine trop bien. Allez, hop, on va quand même lui mettre une petite claque à la fin où il s'est quand même un peu planté, il a quand même désobéi, et etc., etc. Donc, vous voyez comment se construisent les livres. Et du coup, ça se termine un peu en queue de poisson. C'est-à-dire que vous n'avez toujours pas... David n'est pas mort à la fin du... Pourtant, il a prononcé ses dernières paroles, mais il n'est pas mort. Alors, j'entame, dans les quelques minutes qui restent, le premier livre des rois, puisqu'on est vraiment dans la continuité. Et qu'au début du premier livre des rois, eh ben, voilà, David était vieux, nous dit-on, chapitre 1, verset 1er. On le sait déjà, puisqu'on nous a déjà dit qu'il était vieux. On nous a même donné ses dernières paroles. Alors, il faut savoir. Alors, en fait, non, ce n'est pas ses dernières paroles, puisque vous aurez de nouveau des paroles de David. Alors, il est vieux. Pour le réchauffer, il n'arrive pas à se réchauffer, donc on lui met une jeune fille à côté de lui. Ça le réchauffe, il est content, et il n'a pas de rapport avec elle. Ça, c'est mauvais signe. Dans l'Antiquité, c'est comme ça qu'on sait qu'un roi est vieux et qu'il faut penser à sa succession. C'est quand on met une femme dans son lit et qu'il ne se passe rien. Je vous regardez bizarrement, mais je vous assure, c'est vraiment perçu comme ça. C'est de dire, bon, là, vraiment, il est vraiment trop vieux, donc il est temps de penser à sa succession. Et c'est là que ses enfants se disent, c'est moi, c'est moi, c'est moi, on se frotte les mains, on se dit, c'est bien, bon. Et pour éviter, et comment on fait dans l'Antiquité, si on a peur que ce soit la pagaille, parce que c'est ça, un roi, il meurt, et ensuite, tout le monde s'entretue pour prendre la succession, le mieux, c'est que le roi choisisse de lui-même lequel de ses fils va prendre la suite. Et là, il y en a un premier, Adonias, verset 5, qui se dit, tiens, il commence à justement faire campagne en disant, je serai roi, machin, etc., etc. Moi, président, moi, président, mon président. Bon. Du coup, les autres disent, mais non, mais non, mais non. Alors, du coup, Bethsabée, la mère de Salomon, dit, mais non, moi, je veux que ce soit mon fils, Salomon, puisqu'évidemment, David, il a plein de femmes. Hein, je ne sais pas combien il en a, mais de nommer dans la Bible, on doit avoir les noms de 5 ou 6 femmes, peut-être 5, je ne sais pas. Mais on nous dit, dans certains versets, on nous dit, David prit encore beaucoup de femmes. Hein, et on ne nous dit pas leur nom. Donc, moi, je ne sais pas combien il en avait, mais bon. Et donc, du coup, ils vont voir David, et puis ils lui disent, verset 13, dit, c'est Salomon, ton fils, qui deviendra roi après moi, etc., etc. Bon. Du coup, elle le convainc, et effectivement... verset 28, David répondit, appelez-moi Bethsabée, et le roi fit ce serment, verset 29, par la vie de Yahvé qui m'a libéré de toute détresse, ce que j'ai juré par Yahvé, le Dieu d'Israël, en disant, c'est Salomon ton fils qui deviendra roi après moi, c'est lui qui s'assiera sur mon trône à ma place, je le ferai en ce jour. Et donc du coup, on fait venir Salomon, on le met sur la mule, verset 33, et on va lui conférer l'onction. J'en profite pour dire que être sur une mule n'est pas un symbole d'humilité. On dira, ah, regardez Jésus quand il rentre à Jérusalem, vous savez, le dimanche des rameaux, tout ça, on dira, ah, il est monté sur un ânon, tout ça, quelle humilité, il n'est pas sur un grand cheval blanc. Bah, désolé, bah, non, regardez, on fait venir Salomon, on le met sur une mule. Bon, donc on ne le met pas sur un grand cheval blanc. Donc c'est un symbole royal quand même. Donc allez faire un tour du côté de Matthieu 21, si je me souviens bien, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc du coup, on lui confère l'onction, vive le roi Salomon, etc., etc. Et de fait, Salomon est donc roi. Et au chapitre 2, on se dit, ça y est, David meurt. Comme le moment de sa mort approchait, David donna ses ordres. Vous savez, il n'en finit pas de mourir, c'est comme ça. Hein, c'est dit, bon. Alors il part, il fait un discours, encore, c'est encore les dernières, tu vois, moi je m'en vais vers le soir commun à tous, sois fort et sois un homme, c'est les mêmes paroles que ce qu'on avait au début du livre de Josué, c'est standard. Là vous avez un passage qui est entièrement, qui est complètement deutéronomiste, donc garde les observances de Yahvé ton Dieu, etc., selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin de réussir dans tout ce que tu feras et partout où tu iras. C'est exactement Josué chapitre 1er, hein, vous avez du copier-coller pratiquement. Ce sont, soi-disant, les dernières paroles de David, etc. Bon, mais on les a déjà eues, enfin voilà, donc vous voyez, il n'en finit pas de mourir. Bon, finalement, chapitre, verset 10, David se coucha avec ses pères et il fut enseveli dans la ville de David. Ouf, ça y est. Et donc c'est enfin Salomon qui va régner. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque, bah, ma foi, c'est l'heure, on a passé l'heure. Mais donc vous voyez, le règne de David qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, l'apogée de Samuel 7. Ensuite, ça commence à mal se passer, Bethsabée, les coups d'État successifs, etc., etc. Et puis ensuite, un certain nombre d'histoires, d'anecdotes, de voilà, hop, 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 hop. Et puis, la succession, où c'est encore mouvementé, finalement Salomon, et puis ça y est, il peut mourir. Donc c'est un personnage, donc le règne de David. David va malgré tout marquer l'histoire de la littérature juive. C'est lui qui sera le fondateur de la dynastie à Jérusalem. C'est lui dont on va réclamer de la légitimité pour asseoir l'autorité à Jérusalem en disant c'est toujours un fils. Alors que dans le royaume du Nord, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous verrez la semaine prochaine, enfin disons après les vacances, le schisme après le règne de Salomon. Vous allez voir que ce sera toujours difficile. Mais donc le roi David reste, et quant à Noël, on dit voilà, à Bethléem, le fils de David est là, c'est la naissance de Jésus, c'est Noël, hein, dans quelques semaines. Eh bien oui, Jésus est fils de David, c'est-à-dire c'est le roi légitime. Donc Jésus est présenté comme étant un personnage royal, le descendant, le Messie, celui qui va rétablir la royauté de David. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël par avance.